Qu'est-ce que c'est ? Une Bible ?
Tu lis la Bible, Ringo ?
Pas tous les jours.
Au large biblique.
Le podcast
qui explore la Bible.
Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Cet épisode vient conclure notre série sur Abraham, le patriarche du livre de la Genèse. Il fut sans doute à l'origine une figure locale et légendaire dont il est à ce jour difficile, sinon impossible, de reconstituer la vie à une époque indéterminée. Il laissera dans cette région le souvenir d'un héros fondateur, souvenir agrémenté de légendes au fil du temps. C'est surtout au VIe et Ve siècle, lors du retour d'exil des élites religieuses juives, que la figure d'Abraham est remise au premier plan. À cette époque, de vives oppositions apparaissent entre les Judéens restés au pays et les fils des déportés juifs de Babylone revenus à Jérusalem. Ces derniers, soutenus par le pouvoir perse, entreprennent la restauration du temple et surtout l'instauration de nouvelles dispositions cultuelles et éthiques, comme la remise en cause des mariages mixtes, les relations avec les nations. Face à leur héros Moïse, les gens du pays opposent le leur, Abraham. Il faudra attendre le IVe siècle pour que l'édition de la Torah puisse concilier les uns et les autres et relier Abraham à Jacob et à Moïse. Je caricature l'histoire de notre texte que j'avais présenté avec le premier épisode de cette série. Mais cela permet de nous rappeler qu'Abraham est l'héritier d'une histoire, celle de la Judée. Cependant, notre personnage biblique n'est pas circonscrit au seul livre de la Genèse, même s'il apparaît peu dans le reste des livres de la Bible hébraïque. Néanmoins, il demeure une figure éminente dans le judaïsme d'hier à aujourd'hui. Les écrits chrétiens, notamment ceux du Nouveau Testament, reliront ces récits tels une annonce et une préfiguration de Jésus-Christ. Plus tard encore, l'islam dans le Coran reprendra et mettra en avant la figure du prophète Ibrahim. Dans ces trois confessions, Abraham est désigné comme l'ami de Dieu. C'est donc un petit panorama de ces diverses interprétations à propos d'Abraham que je vous propose. N'étant pas un grand spécialiste du Talmud et du Coran, je développerai davantage la relecture chrétienne. Très tôt, le judaïsme fait du personnage d'Abraham un modèle de foi. En témoigne le livre biblique du Siracide qui dit à son propos, au chapitre 44,
« Le grand Abraham, ancêtre d'une multitude de nations, il ne s'est trouvé personne pour l'égaler en gloire. Il observa la loi du Très-Haut et entra dans une alliance avec lui. Dans sa chair, il établit l'alliance et dans l'épreuve, il fut trouvé fidèle. C'est pourquoi Dieu lui assura, par serment, que les nations seraient bénies en sa descendance et qu'il le multiplierait comme la poussière de la terre, qu'il exalterait sa descendance comme les étoiles, et que leur patrimoine s'étendrait de la mer jusqu'à la mer, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. »
Abraham est désigné comme le premier observateur de la loi avant qu'elle fût mise par écrit, et le bénéficiaire de l'alliance en sa chair, en la circoncision. Sa fidélité légendaire, y compris dans l'épreuve de la ligature d'Isaac, lui valut d'être assuré pour ses descendants d'une prospérité. Plus tard, dans la communauté juive essénienne de Qumran, le rouleau de Damas parle d'Abraham en ces termes.
Abraham fut promu comme ami de Dieu, parce qu'il avait gardé les commandements de Dieu et qu'il n'avait pas choisi la volonté de son propre esprit. Et il les transmit à Isaac et à Jacob, qui les gardèrent et qui furent inscrits comme amis de Dieu et participants de l'alliance à jamais.
D'autres écrits, comme le livre du Jubilé, produisent des récits édifiants du patriarche, faisant de lui un défenseur et un promoteur de la foi. Ces midrashim comblent le texte biblique en racontant la jeunesse du patriarche ou son refus des idoles, etc. Ces textes sont des actualisations qui visent aussi à amoindrir les aspects plus lâches de la vie d'Abraham rapportés par la Bible. Plus tard, dans les écrits rabbiniques comme le Talmud, Abraham est décrit comme un rabbin, un bon observateur de la Torah, avant sa mise par écrit au temps de Moïse. Abraham est ainsi présenté dans les écrits du judaïsme comme l'archétype du croyant, voire le père des croyants juifs, celui qui demeure fidèle à la loi de son Dieu et faisant preuve d'une généreuse hospitalité. Déjà en son temps, l'évangéliste Luc puisera dans ses traditions juives pour une relecture de la figure patriarcale. S'il est moins présent que Moïse, Jacob ou David, le personnage d'Abraham demeure une référence dans le Nouveau Testament, surtout pour Paul de Tarse, comme nous le verrons au point suivant. Parmi les évangélistes, Luc le cite plus abondamment. Dès ses premiers chapitres, l'avènement du Messie en Jésus, associé à la présence de Jean le Baptiste, s'appuie sur le serment fait à Abraham. Lors de la visitation de Marie à Élisabeth, elle déclare
« Le Seigneur est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. »
Dans son chant, Zacharie, le père du Baptiste, dit
« Le Seigneur a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, notre père. »
L'évangéliste Luc fait ainsi appel à Abraham pour annoncer l'avènement de Dieu en raison de son alliance avec le patriarche, en faveur d'Israël son peuple. Comme Matthieu, Luc intégrera Abraham à la généalogie de Jésus. Il est de sa descendance et donc héritier de l'alliance. Cette mémoire d'Abraham permet aussi à l'évangéliste de rappeler les devoirs d'hospitalité et de charité à travers la parabole du pauvre Lazare et du riche au chapitre 16. Parabole dans laquelle Abraham se fait le porte-parole du jugement eschatologique, associant l'appartenance à l'Alliance avec d'abord le devoir de charité. Luc fera d'Abraham, comme les autres évangélistes, non plus seulement le père des croyants juifs circoncis, mais surtout la figure de la fidélité et de la foi. Ainsi, Jean le Baptiste, au chapitre 3 de son évangile, annonçait aux foules
« Produisez donc les fruits qui témoignent de votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. »
Abraham, notre père, la paternité d'Abraham fait d'abord référence à la circoncision. Ici, Luc suggère, déjà, qu'une autre paternité d'Abraham pourrait advenir en dehors du rite et par la volonté divine. Cette désignation d'Abraham comme père est également évoquée au chapitre 8 de l'évangile de Jean, au sein d'une polémique entre Jésus et certains juifs devenus ses disciples.
« Vous êtes de la descendance d'Abraham, leur dit Jésus, je le sais. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon père, tandis que vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père. » Ils ripostèrent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. »
Le débat est révélateur de ce qui agitait les communautés chrétiennes en leur sein, comme aussi avec les autres juifs. Saint Paul fera lui aussi appel à la figure d'Abraham, non pour s'en dissocier, mais au nom de sa foi en Christ, s'en réclamer. Il faut rappeler qu'au 1er siècle, le christianisme est une réalité qui appartient et se réclame du judaïsme. Il ne s'en détachera que progressivement et surtout après le 3e siècle. Il n'empêche que justement, Abraham est invoqué par les chrétiens pour affirmer leur appartenance à la révélation juive. Paul, au milieu du 1er siècle, fait appel à la figure de ce patriarche. Certains chrétiens juifs reprochent à l'apôtre de contrevenir à la religion juive de ses pères. En effet, il refuse la circoncision aux croyants chrétiens issus d'autres religions, ce qui est inconcevable au regard de l'identité juive à laquelle appartiennent à l'époque la grande majorité des chrétiens. La circoncision instituée avec Abraham regarde l'attachement à l'alliance irrévocable de Dieu. Pour Paul, désormais, l'attachement, la marque de l'alliance, en raison du Christ, c'est le baptême et la foi. Il est fort probable que ces contradicteurs fassent appel à la figure d'Abraham pour inviter, le mot est peut-être faible, les nouveaux convertis à la circoncision afin qu'ils appartiennent au peuple de l'Alliance, au peuple de Jésus. Pour éclairer sa pensée, somme toute assez subversive, Paul va s'appuyer sur cette même figure. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, il déclare
« Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc. Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. »
Les chrétiens de Galatie, au centre de l'actuelle Turquie, que Paul a évangélisé, souhaitent se faire circoncire après avoir entendu d'autres prédicateurs judéo-chrétiens. Paul les met vivement en garde. ce n'est pas la circoncision qui fait que le croyant est assuré d'appartenir à l'Alliance, mais la foi, et ici, la foi en Christ. Abraham sert ici de preuve scripturaire. Face à ses adversaires, qui pouvaient mettre en avant cette même figure pour justifier la circoncision, Paul n'hésite pas à rendre compte de la préséance de la foi en Christ. C'est assez audacieux, car Abraham est d'abord, en ce judaïsme du 1er siècle, la figure de la fidélité au commandement de Dieu par la circoncision. Paul émet une autre interprétation du patriarche en soulignant qu'il a été trouvé juste aux yeux de Dieu, selon Genèse 15, avant sa propre circoncision en Genèse 17. Par conséquent, selon Paul, la filiation abrahamique, c'est-à-dire l'appartenance au peuple de l'Alliance, s'accomplit avec la foi en Christ et s'ouvre désormais aux nations incirconcises. Dès lors, la figure d'Abraham n'est plus seulement une figure patriarcale, mais une figure prophétique, annonciatrice du Christ. D'ailleurs, l'Écriture a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle « Toutes les nations seront bénies en toi ». Pour Paul, le Christ, et notamment par sa crucifixion, vient révéler et instaurer la nouvelle alliance, établissant ainsi un nouveau mode d'engendrement à Dieu par la foi et non pas par la génération ou la circoncision. C'est désormais la foi au Christ qui ouvre les portes du salut aux Juifs comme aux Grecs, aux hommes comme aux femmes, aux hommes libres comme aux esclaves.
Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme,
dira-t-il dans ce même chapitre 3 de la lettre aux Galates. Finalement, Paul reprend le sens de la circoncision d'Abraham que nous avons entendu avec l'épisode 7 sur Genèse 17. Celle-ci venait rétablir des relations saines au sein des descendants d'Abraham. Pour Paul, c'est le Christ qui joue désormais ce rôle auprès des Juifs comme auprès des païens en raison de leur foi en lui. Je résume très grossièrement car il y aurait beaucoup de choses à dire sur la figure d'Abraham réinterprétée par Paul. Mais ce dernier n'est pas l'unique interprète d'Abraham dans les milieux chrétiens. La lettre aux Hébreux, dont l'auteur demeure anonyme, présente la foi d'Abraham comme une préfiguration de la foi chrétienne en la résurrection.
Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses. Et qu'on lui avait dit, « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils.
Le sacrifice d'Isaac est ainsi compris comme une préfiguration de la passion et de la résurrection du Christ. Abraham, quant à lui, par son geste, exprime sa foi révélée par ce même Jésus-Christ. Abraham n'est pas le seul personnage que reprend notre auteur pour montrer que toute l'Écriture s'accomplit avec l'avènement de Jésus. Outre Noé, Jacob, Moïse et bien d'autres, la lettre aux Hébreux entreprend une autre lecture de la rencontre entre Abraham et Melchizédek. Ce dernier est même un personnage clé dans la lettre aux Hébreux. Pour l'auteur, cette figure annonçait une réelle nouveauté en Christ. Là encore, je suis obligé de résumer.
Ce Melchizédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, est allé à la rencontre d'Abraham lorsque celui-ci revenait du combat contre les rois et il l'a béni. C'est à lui qu'Abraham remit la dîme de tout. D'abord, il porte un nom qui se traduit « roi de justice » et ensuite il est aussi « roi de Salem », c'est-à-dire « roi de paix ». Lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin pour sa vie, mais qui est assimilé au Fils de Dieu, reste prêtre à perpétuité. Contemplez la grandeur de ce personnage qui, Abraham, a donné en dîme la meilleure part du butin, lui, le patriarche. Or, ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont ordre de par la loi de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant les descendants d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, a soumis Abraham à la dîme et a béni le titulaire des promesses. Or, sans aucune contestation, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur.
Pour l'auteur, Melchizédek, roi de justice et de paix, et prêtre du Dieu Très-Haut, n'est autre qu'une préfiguration du Christ devant qui même Abraham se soumet en recevant de lui une bénédiction. Par cette lecture métaphorique, l'auteur veut montrer la réelle nouveauté du Christ, seul grand prêtre et seul médiateur de Dieu qui vient instaurer une nouvelle alliance, mais aussi une nouvelle loi, relativisant celle de Moïse.
Car,
écrit-il,
un changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi.
Cette figure de Melchizedek allant à la rencontre d'Abraham avec le pain et le vin sera également interprétée par des pères de l'Église comme l'épisode de l'Écriture annonçant l'institution de l'Eucharistie. De même, la venue des trois visiteurs auprès d'Abraham recevra une lecture trinitaire. Ainsi, dans la réception chrétienne de la figure d'Abraham, le patriarche n'est pas seulement présenté comme un modèle du croyant, mais surtout comme une figure prophétique annonçant l'avènement du Christ en Jésus. Plus tard, à son tour, dirais-je, l'islam va également interpréter la figure d'Abraham, mais en se détachant des récits bibliques. Abraham, l'ami de Dieu. L'expression est aussi présente dans le Coran pour évoquer Ibrahim. Il y est cité 69 fois, sans compter les mentions d'Ibrahim dans les hadiths. Ibrahim est moins considéré comme un patriarche que comme un prophète. Pour le Coran, la foi d'Ibrahim précède celle de Moïse et celle de Jésus et représente le modèle de la foi monothéiste. Il est celui qui, le premier, s'est abandonné à la volonté d'Allah en quittant les idoles de son pays d'origine. Sa soumission est mise en valeur avec le sacrifice du Fils. Cette figure de croyant soumis à Allah rejoint la définition même de l'islam, un mot qui désigne le fait de s'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. La troisième sourate dira à propos d'Ibrahim
« Ô gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui ? Il n'était ni juif ni chrétien, mais il était un vrai croyant soumis à Dieu. »
Ainsi, Ibrahim sera présenté comme un prophète de l'islam. Les traditions scripturaires de cet islam à propos d'Ibrahim diffèrent des écritures juives et chrétiennes. Ibrahim est associé à la Mecque. L'ordre divin lui advient pour bâtir une maison afin d'adorer Allah. Ce sera la Kaaba. Avec son fils Ismaïl, il inaugurera ce tout premier pèlerinage. Et c'est aussi dans les environs de la Mecque qu'Allah mettra Ibrahim à l'épreuve avec le sacrifice de son fils. Même si le Coran reste muet quant à l'identité de ce dernier, les traditions ultérieures l'associeront à Ismaïl. Avec le Coran et l'islam, la figure d'Ibrahim se distingue davantage des traditions scripturaires juives et chrétiennes, lesquelles, dans l'islam, auraient été falsifiées. Ibrahim est ainsi présenté comme l'archétype du musulman. Ce trop bref parcours sur la réception de la figure d'Abraham nous a permis de souligner l'importance de ce personnage dans les trois religions monothéistes, qu'il serait difficile de qualifier de religion abrahamique, tant l'approche et la lecture de ce personnage est différente. Cette série s'est appuyée sur l'approche littéraire et historique des textes bibliques, sans trop insister sur, justement, ces relectures chrétiennes, musulmanes ou talmudiques. J'espère que cela ne vous a pas empêché d'apprécier ces épisodes qui ont voulu montrer la richesse et la complexité du personnage et des autres qui l'ont accompagné depuis Ur de Chaldée jusqu'à Hébron. Hébron, dont l'étymologie évoquerait en hébreu comme en arabe l'ami, raver en hébreu, l'ami de Dieu. Voilà pour l'anecdote, et il y aurait encore beaucoup à dire, ou à dire autrement, sur cette figure biblique. Si vous désirez approfondir le sujet, je vous invite à consulter la bibliographie dont le lien est en note. Dans celle-ci, je pourrais davantage relever deux approches intéressantes et différentes. D'abord, celle de Thomas Römer, avec son ouvrage paru en 2024, ou ses articles. Une approche qui fait place au fond historique du personnage et de la rédaction de ses récits. Mon second conseil, c'est l'approche narrative d'André Ouénin, que vous pouvez lire dans le numéro 179 des Cahiers Évangiles, ou avec son ouvrage sur Abraham ou l'apprentissage du dépouillement, paru en 2016. Comme d'habitude, je profite de ce dernier épisode pour remercier celles et ceux qui, par leurs dons, ont permis la diffusion de ces 14 épisodes, en particulier Louis-Michel, Patrick et Marie-Françoise. Comme eux, vous pouvez soutenir ce podcast via les plateformes Tipeee ou Ko-fi. Là encore, les liens sont en note de l'épisode et sur le site. Une manière de soutenir ce podcast et d'améliorer sa visibilité sur les applications, c'est de mettre une notation la meilleure possible sur votre application d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et YouTube. Et n'hésitez pas à y aller de votre sympathique commentaire. Après Abraham, notre exploration du livre de la Genèse nous amènera logiquement au cycle d'Isaac, ou peut-être vaudrait-il mieux parler du cycle de Rebecca, personnage qui fait l'unité des chapitres suivants. Nous découvrirons cela encore ensemble, je l'espère. D'ici là, d'autres séries sur la Bible sont prévues, comme l'histoire de la Judée durant la période romaine, ainsi que le livre de Judith. Je vous donnerai des nouvelles via l'infolettre gratuite, à laquelle vous êtes bien sûr abonné, et qui vous offrira le lien pour télécharger le texte des épisodes de cette série. Rappelez-vous également que les séries précédentes sont toujours disponibles, elles vous attendent, pour cela consultez le site aularge.eu. Merci à toutes et à tous pour votre fidèle écoute, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.